CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, musique, terroir et culture avec une nouvelle exposition au musée Fenaille, menu complet dans le mag Grand Rodez aujourd'hui.
Cette émission est présentée par la région Midi-Pyrénées, organisatrice du Salon de la qualité alimentaire CISCA, 8-11 décembre 2011, Parc des Expos de Toulouse. Plus d'infos sur midipyrénées.fr.
Je me trouve avec Louis, alors du côté de Montaigu du Quercy, dans le Tarn-et-Garonne, dans une exploitation, on fait de l'ail par ici. Bonjour Louis.
Bonjour.
Une exploitation familiale ?
Oui, mes parents sont installés ici depuis le début des années 80 et ils ont fait le choix de la bio dès le début. Moi-même, je suis installé seulement depuis 3 ans et réellement en tant que jeune agriculteur que depuis le début de l'année.
Quels sont vos plaisirs de produire ?
Mes plaisirs de produire, c'est déjà la diversité, parce que dans mon activité, on fait autant de l'élevage que des grandes cultures, que certains légumes, donc en particulier l'ail et le basilic et le piment, dont je vais vous parler de mes produits transformés. Puis après, c'est aussi la transformation et la commercialisation, parce que nous vendons tout en vente directe. Donc il y a le contact avec le consommateur qui est souvent très intéressant.
Vous faites du légume frais que vous transformez ici à la ferme ?
Oui. Tout est transformé à la ferme avec tous les ingrédients végétaux sont produits à la ferme. C'est-à-dire que par exemple pour l'ail, l'huile de tournesol, les deux sont produits, cultivés et transformés à la ferme. Donc il y a aussi le pressage qui se fait à la ferme de l'huile de tournesol. Donc de la même manière que pour le chanvre et pour le cartame que nous pressons aussi à la ferme et que nous vendons l'huile, donc de l'huile de chanvre, de l'huile de cartame et de l'huile de tournesol.
Je vais vous demander de me dire ce que c'est que le cartame.
Le cartame est un chardon, qui fait une fleur jaune et une graine blanche et qui est d'origine égyptienne et qui donne une huile alimentaire goûtue. Qui est adapté pour l'assaisonnement, mais aussi pour la cuisine.
D'accord, et ça donne une huile plutôt quelle couleur ?
Elle est, au niveau de la couleur, elle est proche du tournesol, donc c'est assez jaune. C'est en fait un produit que je développe que depuis peu, et nous avons plus l'habitude de produire l'huile de tournesol et l'huile de chanvre depuis 1 an, que nous commercialisons donc.
Que vous commercialisez donc en direct ici à la ferme, vous faites des marchés aussi ?
Oui, mais donc il y a le samedi matin, ma mère est au marché de Lozerte et moi le samedi matin je suis au marché de Montaigu de Quercy. Et d'autre part, j'ai fait les foires de Montauban, donc Biocibel, la foire de La Française et la foire de Villeneuve-sur-Lot. Et donc prochainement je serai à la CISCA.
J'ai devant moi 3 pots, alors un pot de pistou, un ayou blanc et un ayou apparemment pimenté, c'est ça ?
Oui, donc l'ayou c'est la recette de base, donc c'est de l'ail avant qu'il soit à maturité que je broie, que je fais macérer pour qu'il perde son goût agressif, que je mélange avec de l'huile de tournesol cultivée et pressée à la ferme et du sel. Ensuite, il y a l'ayou pimenté dans lequel je rajoute un mélange de piment d'Espelette et de cayenne. Ce sont des produits qui peuvent s'utiliser très bien en cuisine ou alors directement sur du pain en toast d'apéro. Après, il faut prendre en compte le fait que ce sont des produits qui sont assez salés parce que c'est le sel qui fait office de conservateur. Donc, quand on l'utilise en cuisine, il ne faut pas saler votre plat d'autre part.
Ce qui veut dire que de l'ayou écrasé avec juste de l'huile, ça ne se conserve pas ?
Non, c'est le sel qui fait office de conservateur. Et s'il n'y aurait pas le sel, il faudrait le cuire. On perdrait une grande partie des qualités de l'ail. Et donc l'intérêt justement de l'ayou, c'est qu'il y a toute la richesse de l'ail y est. Donc vous avez le goût, mais vous avez aussi tous les effets bénéfiques sur votre santé. Et bien sûr, le caractère que ça vous donne.
Et tiens, reparlons des effets bénéfiques de l'ail sur la santé. En voilà un sujet intéressant.
C'est bon pour tout ce qui est circulation, c'est bon pour dans les différentes défenses immunitaires. Et je pense que ça vous donne surtout la bonne humeur et une aura que votre entourage appréciera.
Je vous remercie, Louis. Moi, je vais essayer de déguster un petit peu.
Cette émission vous a été présentée par la région Midi-Pyrénées, organisatrice du Salon de la qualité alimentaire CISCA, 8-11 décembre 2011, Parc des Expos de Toulouse. Plus d'infos sur midipyrénées.fr.
CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.
C'est le Mac Grand Rodez, direction le musée Fenaille avec une nouvelle exposition qui a été inaugurée hier. Curiosité et merveille, jusqu'au 20 mai, le musée Fenaille nous propose de découvrir une partie des trésors entreposés dans ses réserves depuis 175 ans. Le responsable du musée, Aurélien Pierre, interrogé par Benoît de Gobert.
Alors cette exposition, c'est avant tout une présentation, une sélection d'objets issus des réserves du musée Fenaille, donc c'est des objets qui ne sont pas présentés dans la collection permanente, et donc c'est un choix parmi ces milliers d'objets qu'on conserve, avec une sélection de pièces qui ont à voir avec le curieux, le merveilleux, des curiosités. Donc il y a des choses voilà, très très originales, très singulières. Il y a près de 80 objets qui sont présentés là, donc ça va de pièces de souvenirs de voyage, de pièces ethnographiques, de témoignages historiques, de fragments d'histoire, de petites choses assez touchantes qui sont liées presque à des fois à des histoires personnelles, mais c'est toujours un peu la même volonté de confier à un musée un objet en espérant déjà qu'il suscite un intérêt auprès des autres et puis aussi qu'il traverse un petit peu le temps, les siècles, donc c'est pour nous aussi d'une richesse assez exceptionnelle de voir des objets voilà, qui ont été donnés il y a près de 170 ans voilà, et qui nous parlent encore.
Alors justement, vous disiez que ces objets donc, ont été donnés au musée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces bienfaiteurs, qui ils étaient ?
Alors le musée Fenaille est intimement lié à une société savante qui s'appelle la Société des Lettres. Et le musée Fenaille avant était le musée de la Société des Lettres pendant très longtemps, jusqu'à l'arrivée de Maurice Fenaille. Ensuite, il a pris le nom de son bienfaiteur. Et dès la création de cette société savante en 1836, il y a eu la volonté donc de créer un musée un peu encyclopédique, où on avait envie vraiment d'accumuler des objets comme ça, qui venaient peut-être un peu à la fois de la région, du Rouergue, mais aussi du monde entier. On avait vraiment envie d'embrasser le monde ici et de recueillir énormément de choses. Et grâce à ces membres de cette société savante, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Et puis une grande partie de ces membres étaient parfois des correspondants à l'étranger. Donc il pouvait y avoir des religieux, abbés, missionnaires, comme des militaires, médecins, agents des postes qui étaient à l'autre bout du monde et qui pensaient... comme disait un de ses chers donateurs à leur pays natal, et voulait offrir des fleurs de souvenirs. Voilà. voilà. Donc, il y a beaucoup d'objets qui étaient donnés. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de refus. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans ces collections, qui maintenant, peut-être, ne rentreraient plus dans des collections publiques. Voilà.
Donc, justement, vous disiez qu'il y avait énormément d'objets dans les réserves. Donc, qui a choisi les objets pour exposer aujourd'hui? Et est-ce que vous connaissez tous les objets que vous avez dans les réserves?
Alors je devrais dire oui, mais à peu près oui, même si après il y a une grande partie de l'inventaire qui est en cours, l'inventaire formalisé, mais on a quand même une idée de ce qu'on a dans les collections. Alors après on a plusieurs milliers d'objets, donc c'est peut-être entre approximativement 20 000 objets, mais ça va des fois de toutes petites pièces, de petits artefacts archéologiques à des choses plus importantes, comme la chaise à porteur par exemple.
Donc c'est vous qui avez choisi les objets ?
Ah oui, pour revenir à la question. Oui, c'est moi qui ai choisi les objets. Oui.
Donc c'est des coups de cœur personnels.
Oui, bien sûr, c'est des coups de cœur personnels aussi, mais c'est des coups de cœur qui sont liés aussi à l'histoire aussi des collections du musée.
Ouais. Et est-ce que dans tous ces objets, vous avez un favori, un petit préféré ?
Je sais pas, c'est difficile. Non, comme ça.
Les plus marquants ?
Les plus marquants, je sais pas, auprès du grand public, qu'est-ce qui peut. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui intéresseront, mais une chaise à porteur, c'est toujours un peu spectaculaire, intéressant. Qu'est-ce qu'on a ? Un drapeau, par exemple, qui aurait été porté sur les barricades en 1848. C'est toujours des témoignages historiques assez saisissants. Les pièces ethnographiques, là aussi, font parler nos imaginaires. Voilà, des objets qui ont été récupérés, alors des fois dans des conditions, je ne sais pas lesquelles, mais qui viennent d'Afrique centrale, d'Extrême-Orient. Alors des noms qui font toujours un peu rêver, la Cochinchine, on ne sait plus trop ce que c'est, mais c'est une partie du Vietnam. Voilà, l'Amérique du Nord, avec la collection François Gissac, c'est assez passionnant, qui est lié à la fois aux Indiens qui existent encore à la fin du 19e siècle, et puis aussi ce qu'on appelle un peu les cultures paléo-indiennes, donc c'est les premiers Indiens, donc c'est pas des Indiens, mais les premiers habitants de l'Amérique du Nord, donc au temps préhistorique, donc il y a près de 10 000 ans, voilà, on a une très belle série, pointe de flèche, choses comme ça. Après, beaucoup de choses, des fois très curieuses, je vous le vois à côté, donc d'un avant-bras de momie donné par un pharmacien de Rhodes qu'on présente.
Ouais, moi, ce qui m'a marqué, c'est les petits bocaux, là, le formol.
Ouais. Ouais. Alors, les petits bocaux au formol, c'est vrai que ça plaît beaucoup, ça. Oui, bah, alors là, on n'a qu'une petite série, on doit en avoir plus d'une centaine de ces bocaux, voire plus de 150 au moins. Ouais.
Donc, cette exposition ouvre au public. Ouais. Est-ce qu'il y aura des animations qui seront faites ?
Donc, il y aura bien sûr des visites guidées avec mon collègue Jean-Philippe Savignoni, ses vacances de Noël. Il y a des ateliers aussi pour le jeune public qui sont organisés. Et puis ensuite, dans notre nouveau programme l'année prochaine, on va programmer beaucoup de choses, d'activités autour de cette exposition. Voilà.
Donc toute autre chose. Par contre, demain, vous accueillez Pierre Soulages dans vos locaux. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation, comment va se dérouler cet après-midi?
Alors, ce qui est proposé vendredi 9 novembre, donc c'est une séance de dédicace avec Pierre Soulages. Donc ça aura lieu au musée Fenaille, dans la Courjouerie, précisément, la séance de dédicace. Donc c'est autour de la sortie d'un ouvrage qui est coédité par la Bibliothèque nationale de France et le musée Soulages, voilà, qui s'appelle « L'œuvre imprimée » et qui recense, c'est un peu un catalogue raisonné, de toute l'œuvre imprimée, donc les estampes de Pierre Soulages, ce qui correspond à ce qu'on aura en grande partie à Rodez. Donc voilà, on peut se dire déjà que tout ce qu'il y a dans ce catalogue-là correspond à une partie de la donation de Pierre Soulages. Voilà.
Et pour donc le public, les livres, il faut se le procurer avant ou on pourra l'acheter ici?
Alors bien sûr, on peut l'acheter au musée Fenaille, c'est mieux même, je dirais. D'accord. Venez l'acheter au musée Fenaille. Et ensuite, ça se passera de 16h à 17h30. Voilà. Évidemment, il risque d'y avoir un petit peu de monde, donc on canalisera tout ça. Mais voilà, pendant une heure et demie, voilà, on pourra avoir... la chance, voilà, de rencontrer Pierre Soulages, de dire quelques mots, et puis au moins, voilà, de faire signer un ouvrage, voilà.
Pierre Soulages en dédicace au musée Fenaille, c'est donc demain de 16h à 17h30. L'exposition Curiosité et Merveille, elle, se tiendra jusqu'au 20 mai 2012. Allez, dans un instant, on va s'intéresser au petit Rocamadour, mais tout de suite, Tracy Chapman en CFM.
Make me change my mind. And there ain't no more to say.
Cette émission est présentée par la région Midi-Pyrénées, organisatrice du Salon de la qualité alimentaire Siska, 8-11 décembre 2011, Parc des Expos de Toulouse. Plus d'infos sur midi-pyrénées.fr.
Bonjour Marilyn.
Bonjour.
Alors, le syndicat des producteurs de fromage Rocamadour existe depuis quand ?
Alors, il a été créé en 1991. C'est une initiative au début de producteurs fermiers qui se sont regroupés en se disant on a aujourd'hui un produit, un petit fromage de chef qui est caractéristique, protégeons-le pour que ce petit fromage reste à nous pour toujours.
Le fromage de Rocamadour, quelles sont ses particularités ?
Alors, c'est un petit fromage de chèvre, au lait cru et entier. Il fait 35 grammes. Ensuite, c'est un petit fromage qui a une saveur de noisette et de beurre, assez doux et surtout très crémeux et très fondant, donc très apprécié pour sa texture.
Au niveau national, comment se porte la vente du Rocamadour ?
Alors aujourd'hui, donc 15 ans après avoir obtenu l'appellation d'origine, on est à une commercialisation, une production qui est à 1043 tonnes. On est la deuxième AOC caprine française donc au niveau national. On en trouve à peu près partout sur le territoire français, dans la grande distribution et puis ensuite chez les crémiers fromagers sans aucun problème.
Où se situe la majorité des producteurs ? Du côté de Rocamadour ?
Alors, pas forcément. Donc, le principe d'une appellation d'origine, c'est effectivement d'avoir une aire géographique définie, qui n'est pas une aire administrative, mais bien une aire basée sur des critères géologiques et climatiques. Donc, on est sur les causes du Quercy. Donc, en résumé, c'est le département du Lot. On enlève toute la partie Ségala, qui ne correspond pas du tout à ces terrains calcaires difficiles. Et on rajoute des petits bouts de Causse un petit peu autour, donc Corrèze, Dordogne, Tarn-et-Garonne, Aveyron.
Le syndicat, pour vous rassembler, vous mutualiser, quelle est votre vocation en fait ?
Alors, le syndicat regroupe effectivement tous les opérateurs de l'appellation, qu'ils soient producteurs de lait, producteurs fermiers, artisans. Il a plusieurs missions, donc il a avant tout un rôle de promotion, donc pour faire connaître le produit au-delà de notre département et puis surtout le faire apprécier par tous. Il a aussi un gros rôle d'écoute des besoins de la filière et puis ensuite d'essayer d'y répondre sur des problématiques. Donc il va mettre en place des études par exemple, sur des questionnements que peuvent avoir les producteurs. Il a un rôle donc où il fédère tous les opérateurs et puis ensuite il a un rôle qui est essentiel, c'est un rôle d'appui technique et de contrôle. Donc d'appui technique de la filière, ça passe par un technicien fromager qui va aller se déplacer chez les producteurs dès qu'il y a un petit souci qui est décelé pour les aider à le régler. Et puis ensuite, quand je dis contrôle, c'est le suivi de la qualité des fromages de l'appellation. On a donc une commission de dégustation qui fonctionne toutes les 3 semaines où les produits sont dégustés anonymement et qui permet de valider l'appellation pour les producteurs.
Tout le lait des fromages vient du coin, en fait, c'est vraiment local.
Ah, c'est une obligation, donc il faut être producteur effectivement dans la zone que je vous ai dite tout à l'heure, et on ne peut pas déroger à ça. Au-delà de cette localisation, il y a des critères qui sont fixés par un cahier des charges, comme l'alimentation des animaux, qui doit provenir au minimum à 80% de l'aire d'appellation. Et puis, tout plein d'autres critères qui sont fixés sur la fabrication, sur le nombre de jours d'affinage minimum qui est de 6 jours. Voilà, plein de choses qui sont réglementées et auxquelles on ne peut pas déroger.
Le syndicat comporte combien de producteurs ?
Alors aujourd'hui, on a effectivement 91 opérateurs dans la filière. On a une 50aine de producteurs de lait, donc sur ces 91, 37 producteurs fermiers, 3 artisans et on a des producteurs de caillé. Donc effectivement, c'est avoir une appellation dans un département comme le nôtre, et où on ne peut pas délocaliser la production, c'est un atout économique fort pour un département difficile comme le nôtre.
On ne peut pas faire de l'AOC si on n'est pas dans la zone géographique dont vous venez de parler. Peut-on faire de l'AOC en étant dans la zone géographique et sans être au syndicat ?
Alors non, c'est absolument pas possible. C'est une obligation aujourd'hui d'adhérer à l'ODG Rocamadour, donc au syndicat Rocamadour. Ça fait partie de la loi d'orientation agricole. On ne peut pas faire du Rocamadour sans être adhérent au syndicat.
Merci Marilyn.
Ben avec plaisir.
Cette émission vous a été présentée par la région Midi-Pyrénées, organisatrice du Salon de la qualité alimentaire SISCA, 8-11 décembre 2011, Parc des Expos de Toulouse. Plus d'infos sur midipyrénées.fr.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.